il est 20h. Sofres au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9.
François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Cinquième République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Et non, il n'est pas 20h, mais 21h, et vous écoutez Tous Politiques en direct depuis le studio de Transistor. Je suis ce soir en compagnie de Pierre et de Rémi pour une émission en petit comité, mais toujours là pour décortiquer l'actualité et les enjeux de la campagne présidentielle. Une présidentielle hors norme, si on en croit toute la presse, avec de multiples rebondissements, des affaires judiciaires, des alliances, des renoncements, et j'en passe. Pierre, vous parlez la dernière fois des séries politiques. Pas besoin de fiction, la réalité est assez romanesque comme cela. Et en parlant de Pierre, je me tourne tout de suite vers toi. Bonsoir Pierre, de quoi vas-tu nous parler ?
Bonsoir Mathias, je vais vous parler de Fillon et de Le Pen.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris !
L'autre jour, dans la queue de la caisse du supermarché, en attendant patiemment mon tour, mes yeux sont tombés sur la une du Progrès du jeudi 2 mars. Il y avait en gros « Fillon veut être jugé par le peuple ». Mais avec joie, mon vieux. Mais du coup, on vote quoi ? L'ostracisme, la mise à mort, la confiscation des biens, la perte des droits civiques ? Sérieusement, vous me dites, je réunis 6000 potes sur le PNIC et on vote, hein, y a pas de souci. Oh, pardon. Merde, je me suis gouré de constitution. Et puis de quelques siècles aussi, suis-je bête. Avec tout ce qui est Fillon, Le Pen, Trump, vous savez, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je ne sais plus à quelle époque on est. Non mais sérieusement, j'hésite moi. Après on a l'embarras du choix, c'est vrai. Est-ce qu'on est à la fin de la République romaine avec la création de milices urbaines qui lançaient des émeutes pour tel ou tel populiste ? Fillon se prendrait-il pour César et Le Pen pour Claudius avec un O pour faire plus classe populaire et surtout O comme « Oh putain, non mais c'est pas possible !» Sinon, on a quand même beaucoup plus récent comme exemple. Devra-t-on à nouveau envoyer la cavalerie, ramener l'ordre parmi les ligues mettant Paris sens dessus-dessous comme en 34 ? Je sais pas vous, mais moi ça me fait un peu peur quand deux des principaux candidats à la présidentielle font un gros bras à la justice en lui disant « Hé cocotte, moi je vais avoir ma cote de popularité inscrite sur les écrans de télévision du monde entier, alors viens pas m'emmerder avec mes petits égarements. » Égarements qui s'élèvent à quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Après, je comprends leur logique, hein. Ils volent de l'argent du contribuable et du coup ils demandent au contribuable de voter si oui ou non, il lui fait quand même confiance. Et bien sûr, comment est-ce qu'on fait pour gagner la confiance des gens ? Bah, on crache sur les journalistes. Et ça a marché au Trumpistan, ça devrait marcher ici aussi. Après tout, la France n'est que 45e à l'échelle mondiale au niveau de liberté de la presse. Je veux pas dire, mais les Américains sont 41e et la perfide Albion 38e. C'est la loose pour nous, franchement. On a une des presses les plus anciennes de l'histoire du monde, on a une démocratie qui est passée par tellement de hauts et de bas qu'on pourrait se croire dans un système qui marche. Mais que nenni, mes amis. Nos politiciens font des conneries et nous demandent de les éponger. Au détriment de notre presse, bien sûr. Mais attendez un instant. Peut-être qu'ils ont raison, dans le fond, les Fillon et les Le Pen. Peut-être que notre presse est corrompue, peut-être qu'elle ne cherche qu'à influencer les élections au profit des gauchistes hollandistes pour pousser la France dans le gouffre du socialisme non national ou du libéralisme non économique. Bouh, les vilains journaleux qui ne savent même pas écrire en bon français. Bouh, ces horripilants journalistes qui osent dire à tout le monde les bêtises que l'on fait. Quelle honte ! On devrait mettre une loi qui oblige les journaux à montrer au principal concerné le contenu de l'article et lui laisser faire toutes les retouches qu'il veut. Moi j'en ai marre de ces terribles chevaliers luttant contre l'obscurantisme. Laissez-moi dans un monde de bisounours, où des racistes sans gêne et des homophobes sans vergogne détournent notre argent en nous disant qu'ils sont gentils. Parce qu'ils ne peuvent être que gentils. Et c'est ça que nos médias corrompus ne veulent pas comprendre. Alors oui, moi je suis contre le journalisme. Voilà, c'est des grabouilles totalement inintéressants qui ne font que mentir pour être lus. Voilà, marre des torchons qu'on est obligé d'acheter pour des informations qui valent nettement moins que le clip de campagne de Le Pen, authentique et gratuit, lui. Voilà, moi je veux boire les paroles d'une tête blonde et la suivre passionnément, sans avoir ce petit truc gênant qui nous empêche d'avaler correctement notre café le matin quand on reçoit les brèves intempestives du Monde, de Libération, de Courrier International ou du Figaro. Ce petit truc tellement chiant qu'on appelle la vérité vraie du monde réel. Messieurs les médias, cessez donc ces attaques ad hominem sur les escroqueries de nos favoris à la présidentielle. Cessez de nous montrer à quel point notre caste politique est corrompue, mensongère, magouilleuse, huileuse et surtout, s'il vous plaît, arrêtez de nous montrer qu'on se fait avoir à chaque fois par les mêmes personnes, par les mêmes casseroles, par les mêmes détournements et que pourtant à chaque fois on vote pour eux, pour cette clique de claques qui se perdent, pour ces clones amidonnés qui n'ont de différence que la couleur des cheveux, des yeux, que la couleur politique. Alors pour en revenir à vos petites broutilles de détournement de fonds publics, de mensonges, de haros sur les valeurs républicaines et démocratiques que vous brandissez comme des boucliers face à la phalange de bon sens qui vous fait face, j'aimerais vous parler rapidement, Monsieur Fillon et Madame Le Pen, de la théorie de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit. Nous ne sommes pas, comme j'ai essayé de l'expliciter au tout début de ma rubrique, dans un système politique où la justice est faite par le peuple. Non, nous avons un appareil judiciaire qui a pour mission de garder la tête froide et de juger selon les lois qui existent en notre pays. Si on s'en remet au peuple pour nous juger, on ne fait que retomber droit dans le système archaïque de l'ostracisme à Athènes, système basé non pas sur la raison, mais simplement la passion. Et je pense que vous savez très bien ce que la passion d'une foule peut faire. Sauf qu'elle peut aussi mener à bien, pousser à la révolution comme en 1848, ou simplement pousser à la solidarité, comme après les attentats de novembre. Le principe de l'état de droit, c'est qu'il y a des règles débattues et votées par vous-même, mesdames et messieurs les députés, et qu'un appareil administratif les fait respecter selon les règles qui lui sont imposées. Voyons, monsieur Fillon, je ne vous apprends rien, vous êtes sur les bancs du Palais Bourbon depuis 2012. Votre métier consiste avant tout à mettre en place des lois en représentant le peuple. Alors pourquoi vous venez demander à ce même peuple de statuer à votre place sur votre culpabilité ou non ? Non seulement ils font votre métier à votre place, mais aussi le métier des juges. Ça sera comment quand vous serez président ? Vous gouvernerez par plébiscite ? Ou vous laisserez le petit peuple huppé de Paris et ses beaux quartiers manifester son mécontentement pour chaque critique que vous recevez ? Oh, votre femme a dit que vous étiez plutôt mou au pieu. Boum ! Entre 45 000 et 200 000 gens de la haute sur la place du Trocadéro devant lesquels vous annoncerez fièrement que non, vous ne vous retirez jamais. Et vous, Madame Le Pen, dois-je vous expliquer ce fameux principe de séparation des pouvoirs ? Quand un tribunal vous convoque pour une audition, que vous soyez en campagne, en parlement européen buissonnier ou même sur le trône, faut vous y rendre, ma vieille. Et puis la campagne n'a pas encore commencé, le bulletin officiel n'a pas publié la liste des candidats, et faut vous manier, parce que bon, Nathalie Arthaud vous a dépassé et Asselineau vous talonne. C'est un peu comme être dans le peloton des asthmatiques au milieu d'un marathon handisport où le premier est sur un fauteuil roulant électrique. Enfin bref, je m'égare. Voilà, moi je ne suis pas normalien, je suis auditeur, donc je peux vous le dire franchement, faites ce que vous voulez des fonctionnaires. Foutez en l'air l'appareil administratif en réduisant les postes de centaines de milliers, alors que statistiquement la France est un des pays avec le moins de fonctionnaires par habitant d'Europe. Mais c'est pas très cool de menacer les gens qui font leur boulot quand c'est vous qui êtes en tort. Et surtout quand vous menacez d'abus de pouvoir avant même d'être à l'Élysée. Je sais pas moi, quand on veut des enfants, on n'achète pas la peinture bleue, on trouve d'abord un conjoint. En tous les cas, si vous avez autant de casseroles aux fouilles qu'un cuisinier balinais, on se la ramène pas comme en criant au complot. L'élection présidentielle ne déterminera donc pas si on vous garde ou si on vous exile. Quoique, avec l'immunité présidentielle, je comprends mieux pourquoi vous vous y accrochez tant que vous pouvez à cette course électorale. Mais, désolé, il n'y a qu'une seule place. Au pire, vous avez qu'à devenir député, hein ? Ou eurodéputé, si vous ne savez pas quoi faire de votre europhobie. Après tout, ou détruisons-nous le mieux le système qu'en son sein ? Ah, mais je comprends en fait. En fait, vous cherchez à assécher le budget de l'Union Européenne en détournant des fonds européens ? Et merde, ça peut marcher en plus. Vous en êtes à 300 000 euros pour une seule eurodéputée. Si l'on prend en compte les 40 membres du groupe Europe et Liberté, ça nous mène quand même à 12 millions d'euros, soit presque les 14,5 millions d'euros reçus annuellement par la France de l'Union Européenne. C'est plus que ce que reçoivent les agriculteurs français avec la PAC, à savoir 9 millions. Vous voyez, moi comme je suis consciencieux dans mon métier de journaliste, je peux même vous citer mes sources. Europarl.europa.eu, Wikipédia, Le Monde, et j'en passe. Je ne suis peut-être pas membre de l'establishment islamo-gauchiste de l'anti-France, mais quand même, je vous le dis, Madame Le Pen et Monsieur Fillon.
Vous, les politiciens, vous êtes vraiment très méchants.
Merci Pierre pour cette chronique énergique. Et c'est maintenant l'heure de Mathias vous parle.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Je vous parlais la dernière fois de la Ve République. A-t-elle encore de beaux jours devant elle ? Je ne m'aventure pas dans la politique fiction. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question à mes compères sur le plateau. Savez-vous quand auront lieu les élections législatives ?
Allez, mi-juin.
Les 11 et 18 juin 2017. Et pourquoi parler des élections législatives ? C'est vrai que notre attention est focalisée sur l'élection présidentielle, parce qu'elle met en scène des personnes, des égos, des ambitions, etc. Mais c'est une déformation de notre chère cinquième, car les législatives posent un grave problème. Dans deux cas de figure sur trois au sortir de l'élection présidentielle, les élections législatives seront cruciales pour le futur gouvernement de la France. Je m'explique. Admettons que les trois principaux candidats potentiellement présidentiables soient Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon. Si François Fillon venait par hasard à gagner la présidentielle, on peut vraisemblablement penser que l'Assemblée nationale suivra et offrira à son champion une majorité plus ou moins large, en répétant l'habitude de l'histoire de la Ve République, à savoir de suivre les tendances de l'élection présidentielle. Mais si jamais Marine Le Pen ou Emmanuel Macron devenaient présidente ou président ? Il est très difficile de croire que le Front National gagnerait une majorité des sièges à l'Assemblée, car le mode de scrutin à deux tours ne permettrait pas au Front National de dépasser les seuils requis. En 2012, les deux députés FN n'ont été élus qu'avec des majorités relatives lors de triangulaires. Même cas de figure pour Emmanuel Macron, son parti En Marche ne semble pas en mesure de gagner un ancrage local en seulement deux mois, ni de faire élire 290 députés sous son étiquette.
Faut pas marcher, hein, faut rester sur place si on veut s'ancrer.
C'est ça. C'est bien la personne d'Emmanuel Macron qui cristallise l'approbation, moins que la structure qu'il a mis en place pour le porter à la présidentielle. Bien sûr, on sait bien que l'élection présidentielle est un véritable accélérateur de décision, et qu'il est rare que les législatives contredisent le résultat de l'élection présidentielle. Mais cela ne s'est vu qu'avec des partis très bien ancrés dans le paysage politique français, les gaullistes et leurs évolutions, les centristes et ce qu'il en reste, et les principaux partis de gauche, socialistes ou communistes. Jamais cela ne s'est vu avec des formations neuves, ni avec un parti d'extrême droite qui ne s'implante pas localement, on voit les résultats des dernières départementales, et qui fait toujours figure d'épouvantail. C'est là un produit de l'élection présidentielle sous la Ve République. On focalise tout sur une personne, une ambition, un projet, une vision, comme dit ce cher Emmanuel Macron, dans une structure politique faite par et pour des rapports de force binaires et frontaux. Les créateurs de la Ve République n'avaient sans doute pas idée que le Parlement puisse contrevenir à l'exécutif, sauf dans le cas bien connu, mais qui a surpris à l'époque, des cohabitations, mais qui ne sont en fait que le prolongement des rapports de force déjà existants dans l'arène politique. Les deux cas de figure que j'évoquais forceraient alors à gouverner avec des coalitions. En Marche s'accorderaient les faveurs de quelques députés issus du PS, du Parti Radical de Gauche, un peu de l'UDI et un peu chez quelques Républicains, et pourraient gouverner au cas par cas, au gré des textes de loi, revenant alors à une situation qui n'est pas du tout dans l'esprit de la Ve République, mais plutôt dans celui de la 3e ou de la 4e. Et c'est plus problématique en cas de victoire de Marine Le Pen. Avec qui le FN pourra-t-il gouverner ? Quelques députés de la droite hors les murs qui ne font que rêver d'une alliance avec le FN, et ensuite. On aurait donc un gouvernement minoritaire, susceptible d'être renversé à chaque projet de loi, et projet de loi sans doute adopté à coup de 49-3. Et on serait parti pour 5 ans de Marine Le Pen qui taperait contre le système parlementaire, qui l'empêche de faire ce qu'elle veut et qui serait responsable de tous les maux de la France, bla bla. Bla, l'anti-parlementarisme comme fonds de commerce, on sait ce que c'est, hashtag 6 février 34, ok, j'arrête de dire hashtag. Bref, en arrive-t-on au crépuscule de la Ve République ? Peut-être, car beaucoup de candidats souhaitent intégrer une part de proportionnelle ou la proportionnelle intégrale pendant les élections législatives, ce qui ferait de l'hypothèse de coalition une réalité quasiment systématique pour les élections législatives. Ou alors, on aurait droit au balai des ministres et des responsabilités, la reproduction ad libitum du système courtisan derrière un président indéboulonnable. Bref, soit ça se chamboule, soit on reste comme on est. Dans les deux cas, j'ai pas de réponse. Et c'est maintenant l'heure de passer au billet de Rémi. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Mathias.
Olivier, le billet de Rémi, dans Tous Politiques, sur Transistor.
Oui, bonsoir Mathias, bonsoir à toutes et à tous, ça fait du bien de vous retrouver. Un mois et demi que vous n'avez pas pu écouter ma voix suave caresser nonchalamment les figures remarquables du paysage politique français.
Ça nous a manqué.
Ah oui, ça fait du bien d'être de retour de temps en temps, comme disait en leur temps Napoléon Bonaparte retournant taper sur les Anglais, le général de Gaulle revenant taper, comprendre les Algériens, ou Nicolas Sarkozy revenant taper sur nos nerfs et ses casseroles. En parlant de revenir, je voulais me pencher aujourd'hui sur un mec qui ne me revient vraiment pas, mais qui, manque de bol, sera bientôt président de la République grâce à ses 27 lieux. Pourquoi en parler, me direz-vous, au lieu de m'occuper de mes oignons et de les faire revenir eux aussi, pourquoi pas, avec un peu d'huile d'olive et une pincée d'herbe de province? Eh bien, c'est très très simple.
Parce que c'est notre projet!
Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais bon, avant de parler d'Emmanuel Macron, le racoleur des urnes, à ne pas confondre avec le braconneur des burnes, avant d'en parler, attardons-nous
c'est
un peu...
C'est digne du canard enchaîné.
Attardons-nous un peu sur son directeur de campagne, et quand je dis « attardons-nous », eh ben en effet, il faut avoir du retard pour rejoindre François Fillon là où l'on portait ses errances. Car si François... Oui, alors, je dis son directeur de campagne parce qu'on a quand même un petit peu l'impression qu'en ce moment, c'est la seule chose qu'il sache encore faire. Hein. Car si François Fillon n'est pas autiste, il l'a dit, hein, et les autistes de France l'en remercient, il semble bien être complètement con, avec tout le respect que je dois d'une part à sa personne et d'autre part à sa fonction de futur sous-secrétaire d'État aux transports fluviaux du gouvernement Bayrou 1.
Je et à tous les cons de France aussi.
Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image de Marine Le Pen, droite et fière comme un plug anal dans un régime de bananes, maniant la barre d'un voilier fringant, ses cales chargées de migrants à déverser dans l'Atlantique, le regard perdu dans les eaux, en votre nom, au nom du peuple. Mais aviez-vous remarqué l'énorme cargo pétrolier remorquant le Front National de ses dernières forces avant de sombrer, mazoutant allègrement les cormorans affolés qui le suivaient encore dans cette campagne présidentielle? Les voyez-vous s'agiter, sympathisants on les appelle, pataugés dans la marée noire, englués, marronnasses comme la bouche de François Bayrou la dernière fois qu'il a fallu laver les couches de l'enfant prodige. Regardez-moi les fianter sur le Trocadéro pour affirmer avec un aveuglement qui impose l'admiration à une opération de la cornée, la supériorité du sourcil sur la démocratie. Et regardez-le, le champion. La dernière fois qu'on avait vu quelqu'un écoper si vite, c'est quand Nicolas Sarkozy avait failli se noyer en marchant dans une flaque. Regardez-le bien, car ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. J'avais déjà du mal à supporter que le courage de la vérité devienne le fourrage de l'austérité, mais en atteignant le bourrage de la cécité, je me dis qu'autant choisir comme président Alain Juppé, qui sera bientôt mort, ou Vincent Lambert, qui dit moins de conneries. Et puis, faire comprendre une bonne fois pour toutes à François que je veux me faire le porte-parole du complot judéo-maçonnique, des cabinets secrets de l'Élysée, des islamo-gauchistes frénétiques à la solde des ennemis de la droite, des journalistes fouille-merde incapables de se contenter d'informer au lieu de quoi ils s'amusent à divulguer des informations, des terroristes ralliés à Benoît Al-Hamon, des cinquièmes colonnes liguées contre le droit de frauder, des syndicats à la solde du peuple, des juges qui travaillent alors que ce qu'on attend d'un fonctionnaire, c'est qu'ils glandent derrière un bureau en feuilletant la brochure d'un camp naturiste pour employé de préfecture, ou finissent les mots croisés de l'édition du jour d'aujourd'hui en France, bref, qu'ils prennent exemple sur la fonctionnaire la plus propre de France, Sainte Pénélope Larombière Arrosée. Je me fais le porte-parole de tous ces salopards et te dis, François, que quand on passe des mois à répéter que c'est pas cool de piquer les choux de Bruxelles des copains à la cantine, eh ben on évite de s'enfermer dans la cuisine pour bouffer tous les desserts, et quand la maîtresse arrive un peu en colère, on lui répond pas « Hey, salope communiste vendue, occupe-toi de tes affaires! Aucune loi m'interdit de manger, c'est un complot de l'arabe de la classe qui est jaloux parce qu'il va redoubler à cause des sociologues qui veulent pas que les pauvres à cause des sociologues qui veulent que les pauvres se fassent baiser. Tiens, et regarde, juste pour faire chier, je vais faire caca dans toute la cantine. Tiens, sur l'arabe de la classe, il l'a bien cherché. Et non, on ne fait pas ça parce que les enfants qui ont des capacités intellectuelles ne feront pas comme le peuple de droite et n'iront pas manifester en soutien au petit François au Trocadéro comme des débiles à fourrure et épingle à cravate. Tout ça pour dire que je suis un peu gêné par l'idée d'assassinat politique quand ça ressemble surtout à un suicide un peu triste, genre pendaison avec les tripes gluantes de la démocratie, la tête plongée dans une fosse sceptique pleine de mensonges, sous un tir nourri de casseroles, les orteils grignotés par un canard, la chemise toute retournée, arrachée sur un petit torse tout mou où apparaît un tatouage fifi plus peiné entrelacé avec un gros dollar. Allez, un suicide un peu assisté, disons, ça nous rappellera Alain Juppé dont je parlais tout à l'heure. Je conclurai, un petit peu comme Pierre tout à l'heure, qu'un homme qui paie sa femme et n'est pas capable de se retirer est forcément un peu tordu.
Merci beaucoup Rémi, ça nous avait vraiment manqué.
Ah, tout le plaisir est pour moi Mathias.
Et voilà, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Transistor, www.transistor.fr, et nous suivre sur Facebook, oui, parce que l'émission est arrivée sur les réseaux sociaux, sur la page de Tous Politiques sur Transistor. Je tiens à remercier tous ceux présents sur le plateau, Pierre et Rémi, ainsi que Nicolas à la régie et l'équipe de NS Media pour la diffusion. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain numéro de Tous Politiques. En attendant, la politique, c'est pas tout, mais nous sommes tous politiques.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions.
Au revoir.